Au secours !
Je suis parent.
Je suis parent.
La série pour les parents et futurs parents.
Les écrans et les réseaux sociaux, quel équilibre ?
Bonjour, Didier Babou, chargé de mission prévention jeune à l'association Épisode. Je représente ce soir l'espace 46 qui gère une CJC, une consultation jeune consommateur pour les jeunes de 15 à 25 ans et un point accueil écoute jeune pour les 11 à 25 ans en difficulté pour la prévention des ruptures en tout genre.
Donc bonsoir, Océane, maman d'une jeune fille de 13 ans qui est en classe de 5e. On se pose pas mal de questions. Quand ils rentrent en sixième, justement, parce qu'on leur achète un téléphone portable, souvent, parce qu'ils n'ont pas le choix avec le collège d'en avoir un. Par contre, au niveau de la sécurité de l'enfant, on se pose quand même des questions, et entre autres par rapport aux réseaux sociaux. Donc actuellement, ma fille a Snapchat, mais il y en a plein d'autres dont même on ignore les noms, hein, souvent. Comment savoir en fait ce qu'il faut leur autoriser ou pas au niveau des réseaux sociaux ?
Merci pour votre question. Avant toute chose, je souhaite faire une introduction en disant qu'il est bien compliqué de donner des recommandations à des parents. Chacun exerce la parentalité comme il le peut et comme il le veut. Dans un monde compliqué qui a été inondé il y a déjà quelques années par l'usage du numérique et des réseaux, la première des choses, c'est aller chercher de l'information, bien évidemment. Cette information, on peut la trouver sur des sites comme le CLEMI, par exemple, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et l'information. Il y a un guide très bien fait qu'on peut adresser à tous les parents qui se téléchargent gratuitement, qui s'appelle « La famille tout écran ». Il y a pas mal de pistes de contrôle, de surveillance, de questions de fond à avoir avec ces ados. Voilà, après, vous faites partie des 86% de parents qui confient un téléphone portable à un enfant en 6e, voilà, et 95% des élèves de 3e dorment avec. Donc, si on s'adresse à cette grande majorité-là, la première des choses, c'est chercher de l'information. Pour terminer ma réponse, brièvement, c'est aussi partager ce temps avec vos enfants, avec votre enfant, et lui demander ce qu'elle a, parce qu'il y a Snapchat, mais il y a WhatsApp, il y en a plein. Il en sort un tous les deux mois, donc c'est pas une communication parallèle des élèves ou des jeunes entre eux, c'est une communication tout court. C'est intégré à leur mode de communiquer entre eux et c'est ça que je veux dire à des parents. C'est compliqué de réguler du temps d'écran et de réseau parce que c'est pas une façon opposable d'être en lien. Ils sont en lien comme ça aujourd'hui les jeunes, à travers les réseaux.
Après, c'est pareil sur WhatsApp par exemple. Souvent, ils créent des groupes de classe pour pouvoir justement échanger pour les devoirs ou autres. Donc c'est vrai que c'est...
Tout à fait, si je peux me permettre, la raison première des parents qui confient un téléphone à leurs élèves de 6e, à leurs enfants élèves en 6e, c'est la sécurité et le contrôle. C'est savoir où ils sont, quand ils sont, pour qu'ils nous tiennent informés. Très vite, les élèves de 6e sont coquins et ont bien compris que ce n'était pas uniquement pour dire qu'ils étaient bien rentrés à la maison. Et ils se retrouvent avec un usage, pas détourné, mais autre que la fonction première. Et les réseaux en font partie. Les groupes WhatsApp classe, par exemple, sont régulièrement des groupes qui dévient de leur usage premier, leur fonction première. Ce qui est compliqué, c'est qu'on leur confie un moyen de communication collectif, instantané, permanent, puisque ces groupes sont souvent permanents, et qu'on les accompagne peu à l'autorégulation. Donc c'est des groupes où peu importe lequel, qui peuvent déranger ou les mettre dans une situation complexe, d'où l'intérêt d'en parler avec eux. Voilà. Et pour ça, en général, ils savent assez vite se situer quand ils voient que ce groupe-là dévie de son intérêt premier.
J'avais une autre inquiétude, comme beaucoup de parents. C'est par rapport aux échanges d'images ou de photos diverses. Hein. Donc, moi, je sais qu'avec ma fille, j'essaye au maximum de lui dire de ne pas partager de photos. Mais des fois, avec les copains ou les copines, ils en échangent malgré tout. Donc, comment savoir où mettre le stop, quoi.
Il y a beaucoup de parents qui posent ce genre de questions ou en l'étendant un peu plus, qui questionnent le fond et la forme. Voilà, encore une fois, il n'est pas question de donner des recommandations de bonnes pratiques ou dire il faut faire ça ou ça, souvent c'est le temps d'écran qui est contrôlé et pas forcément la qualité d'usage. C'est-à-dire, on va dire, tu peux te connecter une heure, mais c'est compliqué de suivre les trois discussions en même temps quand ils sont à la fois sur Snapchat, sur Instagram, sur des groupes WhatsApp de classe ou autre. Donc ce qui est important, c'est peut-être de détourner l'écran de sa fonction écran, qui nous empêche d'élaborer avec eux, et de voir un peu quelles compétences ils ont pour communiquer entre eux. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier une mise en danger? Est-ce qu'ils ont un esprit critique sur une image qu'ils vont partager ou pas? Effectivement, les cas sont légion d'une jeune fille qui partage une image un peu dénudée à un copain ou une copine et qui se retrouve après partagée sur tout le collège. Donc là, il y a vraiment cette idée de résonance et d'amplification de l'image qui leur appartient plus une fois qu'elle est partagée. Et leur expliquer, alors il y a un psy qui parle d'extimité, c'est de l'intimité à l'extérieur, mais que c'est une nouvelle zone d'intimité. Mon intimité, elle est chez moi dans ma salle de bain. Et par contre, à l'extérieur, dans le domaine professionnel, je suis protégé de ça. Et cette connexion-là est complexe à apprendre pour les adolescents. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se saisir de l'outil avec eux. Voilà, il y a beaucoup de parents qui disent « Ouais, moi, j'ose plus rentrer dans sa chambre, je ne la fouille pas, c'est son lieu à lui. » Bien sûr, ça peut être important. Mais un téléphone, c'est un moyen de communication où il y a besoin, au-delà du contrôle, d'avoir l'explication de sens et de dire « Voilà, là, est-ce que tu penses que c'est adapté ?» Si ce n'est pas possible de fouiller le téléphone en compagnie de son ado, c'est peut-être important de prendre des exemples dans les cas de tous les jours. Tiens, voilà, est-ce que cette image... parce qu'il y a aussi votre intimité à vous, des fois, quand vous êtes en famille, en vacances, ou avec d'autres, ou les cousins, cousines, les petits frères, petites sœurs. Des fois, c'est pas évident. Voilà, et puis, c'est aussi pas la cause, mais je suis obligé d'en faire une petite parenthèse sur la question du harcèlement scolaire. C'est pas l'école qui harcèle, donc le harcèlement scolaire, le nom est mal choisi, mais c'est pas plus les réseaux. C'est les réseaux, ils viennent amplifier des phénomènes de groupe qui existent chez les ados et même chez les adultes, de bouc émissaire, de leadership positif ou négatif. Mais cette amplification, il faut vraiment parler très tôt avec les jeunes, parce que ça donne des cas de difficultés majeures où, pour une photo où on voit un bourrelet, quelqu'un qui a pas envie de se montrer dans son intimité, ça peut être effectivement compliqué. Donc, la deuxième idée forte, après celle de l'information, c'est d'échanger autour des supports avec ses ados, que ça soit réseau, mais aussi jeux vidéo, adaptés ou pas à l'âge, qu'est-ce que ça génère, enfin, échanger le plus possible sur ce qui traverse là-dedans.
Très bien, merci. Et j'ai une dernière question.
Oui, avec plaisir.
Concernant la gestion du temps, parce que ma fille, elle est limitée avec le contrôle parental, mais j'ai l'impression que des fois, elle passe au-dessus de tout ça.
Alors, je pense que votre fille, comme 100% des enfants de son âge, elle va négocier et essayer de contourner le cadre. Ça, sinon, ce ne seraient pas des enfants ou des ados. Hein. Ils seraient bien trop adaptés pour ça. L'idée, c'est... On respecte une règle quand on en comprend le sens. C'est plutôt normal. Hein. Je renvoie à certaines périodes de crise sanitaire où on avait des règles qui pouvaient parfois paraître absurdes, comme par exemple se faire une auto-autorisation de sortie. C'est des fois compliqué pour un ado de comprendre une règle qu'il ne partage pas. Donc très tôt, c'est ma troisième idée, je vous remercie de nous tendre la perche. Il y a cette idée de... C'est un outil, un téléphone portable, c'est un outil qui donne accès à des réseaux, à de la vidéo, à des jeux, voilà aussi, des jeux connectés ou des jeux pas connectés. Mais en tout cas, l'idée, c'est de contractualiser avec vos ados, vos jeunes, et conscientiser et responsabiliser. Alors tout ça, c'est des gros mots, mais contractualiser, un nouvel outil, ça demande des utilisations qui vont impacter, ça concerne des utilisations qui vont impacter la vie de la famille. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a des périodes où il y a un temps d'écran limité ou illimité? Est-ce qu'il y a des moments du week-end ou de la semaine où c'est autorisé, pas autorisé. Et puis encore une fois, je pense que il y a des jeux ou des moments où on est connecté avec d'autres, où ils en ont besoin. Il y a peut-être un moment où votre fille, elle sera triste, elle aura besoin de parler à une copine et c'est un vrai soutien pour elle. Et des soirs où ce sera juste des jeux un peu impulsifs, compulsifs, qui vont meubler du vide. Voilà, on peut regarder du divertissement ou un reportage super intéressant sur une chaîne éducative. C'est pas la question, c'est un peu ce qu'on en fait. Mais contractualiser, ça veut dire aussi qu'on... Voilà, chacun est responsable dans l'utilisation. C'est pas une utilisation qui va de soi, qui est passive et qui est subie un peu, qui inonde un peu et bouffe le quotidien. Et conscientiser et responsabiliser, c'est est-ce que j'ai conscience de ce que je fais dans l'utilisation? Est-ce que je me rends compte que j'étais parti pour un quart d'heure et finalement, ça fait trois quarts d'heure que je suis sur quelque chose de glissant et d'un peu passif quand même?
Bah, c'est souvent ça.
Oui,
mais
voilà.
Ah, je me suis pas rendu compte.
Oui, mais c'est normal. Si on donne à un gamin qui a faim un paquet de M&M, je suis pas sûr qu'il s'autorégule. Voilà, donc c'est aussi c'est normal. Enfin, c'est pas une déviance de l'outil. Les programmes, les concepteurs de ces réseaux font tout pour que ça soit glissant et passif, pour qu'on ait du contenu adapté avec des algorithmes qui nous concernent, des centres d'intérêt qui nous sont adressés. Donc c'est important, conscient et responsable. C'est OK, j'utilise cet outil, mais en connaissant les risques.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis maman d'une jeune fille de 12 ans qui est en 6e. Donc, comme Océane précédemment, elle a eu le droit à son téléphone à la rentrée des classes pour pouvoir aller sur Pronote et pouvoir communiquer aussi bien que ses parents et ses amis. Moi, problématique est plus sur la partie application. Elle a depuis quelques temps une application qui s'appelle Zepeto, dont elle est devenue plutôt assez accro, si ce n'est addict. C'est une notion où, en fait, on crée un avatar avec un pseudo. Donc, on est un personnage inconnu dans un milieu avec d'autres personnes qu'on rencontre. On peut changer ses apparences. C'est forcément plutôt des gens qui sont plutôt jolis, minces et tout ce que vous voulez. Donc, j'ai une première question sur cette notion d'apparence aussi par rapport à leur relation aux autres. Et aussi le fait que dans cette application où on échange des danses, des musiques, etc., etc., on se retrouve en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc potentiellement peut-être des adultes, moi j'ai une peur avec ça, et où les personnes inconnues peuvent donner des sous, parce que ces changements d'image doivent se faire aussi par de l'argent, donc on paye nos apparences, et d'autres personnes peuvent offrir de l'argent pour permettre de changer d'apparence. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de questions dans tout ça, mais voilà, donc un peu l'inquiétude sur la notion d'application, qui n'est pas du réseau social en tant que tel, mais qui semble être et qui rend plutôt addict en tout cas.
Alors, je vais d'abord répondre de façon détournée. Merci pour votre question. La première des choses, c'est que les ados, de manière générale, ils ont besoin d'avoir un monde imaginaire. Donc, qu'ils aient un monde virtuel imaginaire, c'est pas grave. C'est pas en soi grave. Les jeunes garçons qui font des jeux de combat, où ils sont par guilde, où ils se retrouvent pour faire du foot, être Ronaldo, Messi, ou je sais quoi d'autre, c'est aussi une façon de restaurer leur image et d'être autrement au monde. Quand on est une jeune fille ado, qu'on est en pleine prépuberté ou puberté, et qu'on peut être un avatar séduisant, différent, voilà. C'est le jeu, dans sa fonction d'être autre chose que la réalité, c'est tout sauf autre chose du sérieux. Donc, c'est aussi des fois une restauration de compétences, une façon d'être masqué derrière quelque chose. Voilà, ça en soi, c'est vieux comme le monde. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est que vous, en tant que maman, vous pouvez identifier les risques. Pas forcément votre fille. Les risques à l'usage un peu compulsif, à l'usage débordant, glissant et passif, on disait. Et ça, c'est important parce que du coup, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est une fabuleuse occasion de développer l'esprit critique. Voilà. Alors, la frustration aussi, mais l'esprit critique, si c'est possible, et c'est aussi une bonne façon de se retrouver autour des supports, comme on disait avec Océane, c'est dire, tiens, est-ce que tu es d'accord de me montrer cette application ? Je te promets de ne pas te l'enlever ou de ne pas te l'interdire ou de ne pas être dans un uniforme uniquement de gendarme du téléphone, mais laisse-moi en contrepartie m'intéresser à ce que tu fais, te proposer peut-être quelques règles d'usage et développer ton esprit critique, parce qu'ils le savent très bien, ils savent que les problèmes au collège, elles naissent ou s'amplifient par les réseaux. Voilà, donc forcément que les conflits du week-end sur WhatsApp se règlent lundi matin au collège. Donc ça, ils le savent. Et puis, ils vont très vite avoir plusieurs applications où ils vont recevoir des messages instantanés. Ce qui est intéressant aussi, c'est beaucoup de jeunes parlent de Pronote. Voilà, et par exemple, je trouve que c'est aussi une bonne occasion de dire... Est-ce que quand tu travailles, tu as besoin d'avoir le téléphone à côté de toi ? Parce que c'est compliqué pour savoir quel exercice il faut faire en physique-chimie, il faut 30 secondes sur Pronote. Mais en gardant le téléphone, en essayant d'être concentré après une journée de classe compliquée quand même pour nos élèves et nos enfants, on en reçoit des bing, 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 des notifications. Ce n'est pas sûr que l'exercice de physique-chimie soit optimal.
Je suis d'accord avec vous.
Donc l'idée de contractualiser, c'était aussi ça. Est-ce qu'il y a un temps pour travailler à ce moment-là ? Ben, Pronote, tu viens le voir dans le salon et après, est-ce qu'il y a un temps pour échanger ? Mais la confusion de la connexion permanente, c'est aussi je fais des maths et paf, ou de la physique et je reçois une notification et hop, je reçois une récompense pour Zepeto ou autre.
C'est ça.
Voilà, donc c'est finalement, si on veut bien le faire, mais ce n'est pas toujours facile dans nos quotidiens de parents, parce que parents, c'est un métier à part entière, c'est une fabuleuse occasion de s'en saisir et de les aider à développer un esprit critique.
Donc c'est vraiment de l'accompagnement et essayer de partager les applis avec les enfants pour nous rassurer nous finalement, plus que rassurer les enfants.
Oui, c'est ça, mais chacun a son nœud où il le veut. Les enfants demandent de la liberté et de la connexion, nous du contrôle et de la réassurance, mais c'était le cas avant les connexions portables. Voilà, c'était pas parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable que les générations, on en parlait en introduction tout à l'heure, communiquaient librement, très sereinement entre jeunes adolescents et parents. Voilà, donc là, c'est peut-être une occasion plus qu'un frein de se dire tiens, voilà, tu as un outil, moi je te propose quand même de réguler son usage avant que tu sois totalement libre avec. Et il y a beaucoup de parents qui pensent qu'en retardant l'usage du téléphone, ce sera une bonne chose. Ce n'est pas moi de leur dire que c'est bien ou pas bien. C'est juste que c'est reculer l'enjeu de ça. Mais je comprends tout à fait. Voilà, on parlait tout à l'heure aussi des recommandations tombées du ciel, de guides de bonnes pratiques. Pas d'écran le matin, pas d'écran à table, pas d'écran le soir. 5 fruits et légumes par jour. C'est compliqué. Voilà, donc à l'impossible, nul n'est tenu. L'idée, c'est de faire au mieux, quoi.
C'est ça. C'est clairement, voilà, mes interrogations, moi j'en avais qu'une seule, mais...
Mais c'est important, vous savez, quand on voit un panneau sur un champ et marqué « Attention aux taureaux », bah, y a 3/4 d'enfants et d'ados. Déjà, l'adolescence, c'est une période de conduite à risque, donc c'est une période d'expérimentation, de négociation, de conflit aussi, des fois nécessaire avec ses parents pour dépasser ces modèles-là, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Mais on quitte pas l'enfance sans difficulté. Mais c'est aussi, par exemple, voilà, se dire qu'il y aura un tiers qui vont dire attention au taureau, ils auront intégré le risque du taureau. Donc effectivement, ils auront un téléphone portable sans mésusage. Voilà. Il y en a qui vont dire, ben, s'il y a attention au taureau et qu'on ne le voit pas, ça vaudrait quand même le coup de le voir. Donc est-ce qu'on franchirait pas un peu la barrière? Est-ce qu'on l'appellerait pas? Et il y a ceux qui vont dire, ben, moi je vais dans le champ et je le traverse, au moins je suis sûr de le voir, quoi. Voilà. Donc ben, cette idée de conduite à risque, elle se concrétise aussi sur l'usage des écrans. Donc nous, parents, il faut qu'on leur explique que même quand on ne voit pas le taureau, ben, il y a des risques.
Il faut faire attention.
Peu importe, ouais, l'application et l'usage. Okay.
Et sinon, concernant l'avatar, voilà, qui est quand même une représentation, enfin une notion d'imaginaire, comme vous disiez, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de s'identifier à des personnes comme un modèle type les influenceurs ou influenceuses, justement, sur les réseaux sociaux, qui dépassent totalement la notion du réel et des modèles complètement délirants qu'on peut voir de nos jours, en tout cas, sur les réseaux?
Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a créer un personnage imaginaire, un avatar, qui nous permet d'être dans une réalité parallèle, virtuelle. Et comme je disais, ça peut participer de restaurer l'estime de soi, de faire partie d'un monde de jeux vidéo, d'applications, indépendamment des conséquences que ça peut avoir. Hein, on en a parlé, rencontrer des inconnus, pas avoir une vraie image de soi. Voilà, quand je prends une photo de moi, c'est moi. Quand c'est un avatar, du coup, cette distorsion, elle peut être intéressante parce qu'elle permet d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est justement pas... La jeune fille en difficulté dans sa classe peut se trouver totalement à l'aise, cachée derrière un avatar. Les influenceurs, pour le coup, cette image, cette distorsion vraiment de la réalité, de penser que c'est la majorité, là, ça peut être compliqué. Parce que ce qui est donné à voir, c'est qu'il s'agit de standards de beauté qui représentent 6%, 5% de la population mondiale. Donc être une jeune fille, c'est pas avoir la peau claire, c'est pas être bien formée au bon moment, au bon endroit. Voilà, et il y a de plus en plus de jeunes filles et de jeunes garçons qui souffrent d'être comparés à cette espèce d'idéal totalitaire de beauté et qui peut se mettre en danger à cause de ça. Donc effectivement, c'est pas du tout la même chose de se créer un personnage imaginaire avec les risques que ça comporte dans la rencontre à l'autre, ou d'avoir un standard de beauté ou de vie, des fois, hein, qui est complètement déconnecté pour le coup du réel.
D'accord, ok. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était
Au secours, je suis parent.
Une série de la communauté de communes Sudéro, en partenariat avec la CAF de l'Hérault et l'association Épisode 34, réalisé par RPH Sud.